une semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Prinspectif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Prinspectif, le mix des cultures.
Il est 6h ici à Paris, vous êtes sur Radio France Internationale, 4h en temps universel. Une nouvelle demi-heure d'actualité avec Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Et d'abord les attaques sur pause au Moyen-Orient.
Américains et Iraniens cessent leurs hostilités, affirme-t-on à Washington. La navigation pourrait reprendre sans entrave dans le détroit d'Ormuz. C'est l'un des sujets brûlants, en tout cas des discussions entre les deux pays. Vous entendrez à ce sujet le ministre Omanet des Affaires étrangères. Son pays exige une navigation sûre et libre pour tous. La colère de la Turquie, le pays ne digère pas la reconnaissance du génocide arménien par Israël, annoncé hier par le gouvernement israélien qui doit encore être validé par les députés. L'actualité, c'est aussi Human Rights Watch qui dénonce des exactions commises au Mali par l'armée, ses alliés et les groupes armés islamistes. Cette grande fête très trumpienne et très chère hier en Belgique pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Et puis on connaît le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde masculine de football et c'est l'un des pays organisateurs, le Canada. C'est fini par contre pour l'Afrique du Sud. C'était une information du média Axios. Un responsable américain le confirme à nos confrères de l'AFP. Les États-Unis et l'Iran vont cesser leurs attaques mutuelles pour le moment, dit-il, après un week-end marqué par des affrontements et ce malgré le protocole d'accord signé il y a un petit peu moins de 2 semaines. Le responsable précise les navires peuvent circuler librement dans le détroit d'Ormuz, cette voie de navigation où transite 20% du pétrole mondial, ou plutôt transiter avant la guerre, car depuis c'est beaucoup plus compliqué. Et ce sera d'ailleurs l'un des enjeux principaux des négociations censées se poursuivre cette semaine entre Washington et Téhéran. L'Iran qui en parle elle mène une autre négociation plus discrète, celle-ci, avec ses voisins du Golfe pour tenter de bâtir un mécanisme régional de sécurité maritime. Oman est à la manœuvre et son sultan, Haitham Ben Tariq, devrait faire un état des lieux des discussions tout à l'heure à Paris, où il sera en visite officielle. À ses côtés, son ministre des Affaires étrangères, Bader Al-Boussaïdi. Ce dernier s'est confié à Monte Carlo Doualia, la chaîne en arabe de France Média Monde, de la maison mère de RFI.
Il ne fait aucun doute que le sultanat d'Oman tient absolument à ce que la navigation dans le détroit d'Ormuz reste sûre, sereine et libre pour tous. Parce que nous sommes conscients de son importance pour l'économie mondiale, pour nos voisins de la région et y compris pour l'Iran. C'est pourquoi dans nos discussions avec notre voisin, nous insistons sur une chose importante. Tout ce sur quoi nous nous mettrons d'accord pour atteindre cet objectif doit s'inscrire dans le cadre des règles prévues par le droit international. Nous, au sultanat d'Oman, sommes attachés à la Convention sur le droit de la mer. Nous en sommes signataires, même si les Iraniens ne le sont pas. Mais en fin de compte, nous sommes d'accord sur le fait que ce dont nous conviendrons par le dialogue en cours doit être couvert par le droit international.
Le ministre omanais des Affaires étrangères, Bader Al-Boussaïdi, au micro de Monte Carlo Doualia. Pendant ce temps, au Liban, l'armée israélienne a à nouveau frappé le sud du pays hier, comme la veille d'ailleurs, au moins un mort et 2 blessés cette fois. Le Hezbollah dit se réserver le droit de défendre sa patrie et dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu, déjà très fragile depuis ses premières heures. En plus de ce cessez-le-feu, il y a aussi désormais un accord cadre signé la semaine dernière par Israël et le Liban et censé mener vers une paix durable, un accord rejeté par le Hezbollah et qui ne sera pas adopté selon le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, lui-même allié au mouvement chiite. Il dénonce un texte qui ne préserve pas les droits du pays face à Israël. Israël, justement, où le gouvernement a approuvé hier la reconnaissance du génocide des Arméniens par l'Empire ottoman. Un génocide déjà reconnu par de nombreux pays, la France, les États-Unis ou encore l'Allemagne. L'État hébreu, lui, avait soigneusement évité de le faire afin de ne pas écorner les relations avec la Turquie. Sauf que ces relations, elles se sont bel et bien détériorées ces derniers temps. Alors ça y est, Israël a franchi le pas, même si cette décision doit encore être approuvée par les députés. En tout cas, Ankara n'apprécie pas du tout et le ministère turc des Affaires étrangères l'a fait savoir, correspondance d'Anand Lower.
Sans surprise, la réponse turque est virulente. Virulente à la fois parce qu'il s'agit de la reconnaissance du génocide des Arméniens, un terme qu'Ankara réfute catégoriquement, mais aussi parce qu'elle émane du gouvernement israélien avec lequel les relations sont exécrables. La Turquie qualifie cette reconnaissance de décision politique. Elle accuse le gouvernement de Benjamin Netanyahou de chercher, je cite, à dissimuler ses propres crimes à Gaza. De fait, cette décision intervient dans un contexte de très forte tension entre Israël et la Turquie. Le président turc Erdogan s'est imposé comme l'un des dirigeants les plus critiques de l'offensive à Gaza, qu'il qualifie de génocide. Mais au-delà de ces invectives contre les dirigeants israéliens, les autorités d'Ankara semblent soucieuses ces derniers mois de conserver une certaine retenue face à une partie de la classe politique et des médias israéliens qui présentent la Turquie comme le nouvel Iran et une menace pour l'État hébreu. Fin mai, le chef de la diplomatie turque assurait, par exemple, qu'une normalisation des relations turco-israéliennes était envisageable. Il la subordonnait à la fin des opérations militaires à Gaza et l'accès sans entrave à l'aide humanitaire. Anand Lower, Ankara, RFI.
Le porte-parole du gouvernement afghan dénonce un acte d'agression lâche alors que le Pakistan a mené des frappes cette nuit dans l'est de l'Afghanistan. Elles ont notamment visé une faction dissidente des talibans pakistanais. Islamabad parle d'au moins 25 morts, Kaboul de plusieurs dizaines. En Ukraine, ce sont au moins 4 personnes qui ont perdu la vie hier dans le sud-est et le nord-est du pays après des frappes russes, notamment sur la ville de Zaporijja. Depuis quelques semaines, l'Ukraine, elle aussi, a intensifié ses frappes sur la Russie en visant en particulier les infrastructures d'hydrocarbures, notamment en Crimée, annexée par Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a réagi hier. Il a reconnu des problèmes à cause de ces frappes, une certaine pénurie, dit-il, mais pas critique. Et il a aussi promis, je cite, d'assurer la sécurité de la Russie. Concernant la reprise des discussions de paix, Poutine dit attendre la venue des négociateurs américains une fois, je le cite encore, que la phase chaude sur le dossier iranien sera achevée. L'armée malienne et ses alliés ainsi que les groupes armés islamistes commettent des violations en toute impunité. Voilà ce qu'on peut lire sur le site de Human Rights Watch en préambule d'un rapport basé sur des témoignages auprès notamment des membres de la société civile malienne, de chefs communautaires ou encore de journalistes. Des témoignages recueillis depuis le 26 avril. La veille débutaient des attaques coordonnées entre les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda et les indépendantistes du FLA. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué. La ville de Kidal conquise dans le nord. L'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps ont ensuite intensifié leurs opérations dites antiterroristes. Et d'un côté comme de l'autre, David Bachet, côté armée et côté djihadiste, eh bien, il y a eu des exactions. C'est ce que montre le rapport.
Entre le 6 et le 21 mai, le JNIM lié à Al-Qaïda a incendié plus de 40 véhicules civils à destination de Bamako dans le cadre du blocus décrété sur la capitale. Human Rights Watch rappelle également l'exécution publique d'un civil à Tonka, région de Tombouctou, et les attaques de camions-citernes qui, depuis septembre 2025, tuent des chauffeurs routiers, provoquent de graves pénuries de carburant et d'électricité, perturbent l'éducation et paralysent la vie quotidienne. Concernant l'armée et ses partenaires russes de l'Africa Corps, Human Rights Watch dénonce de violentes opérations de contre-insurrection à l'encontre des communautés Peul dans le centre du Mali. En 4 jours seulement, du 14 au 17 mai, Human Rights Watch a recensé 38 victimes civiles, dont 23 enfants. L'ONG pointe également des frappes de drones à Gimbé le 25 avril, 12 enfants et adolescents tués, et à Téné le 17 mai sur un mariage, 10 morts civiles. Human Rights Watch a proposé un droit de réponse au ministère malien de la Justice qui n'a pas donné suite. Le JNIM a quant à lui tenté de se justifier en expliquant que les civils visés ne respectaient pas les règles édictées par les djihadistes dans les zones qu'ils contrôlent. Human Rights Watch rappelle que le droit humanitaire interdit toute attaque délibérée ou aveugle contre des civils.
Les députés sénégalais appelés à se prononcer ce matin sur un projet de réforme constitutionnelle porté par des élus du PASTEF. Il prévoit notamment la précision du cadre légal appliqué à la haute trahison du chef de l'État, mais aussi la limitation du pouvoir de dissolution du Parlement par le président, qui ne pourrait le faire qu'une seule fois au cours de son mandat. Autre amendement, l'obligation pour ce même chef de l'État de déclarer son patrimoine, et plus seulement au début de son mandat, mais aussi à la fin. La coalition Diomaye, qui soutient le président sénégalais, s'oppose à ce projet et demande son retrait immédiat. Les recherches se poursuivent au Venezuela après le double séisme dévastateur de mercredi dernier. 50 000 personnes manqueraient toujours à l'appel selon les Nations Unies, potentiellement bloquées sous les décombres des 189 immeubles qui se sont entièrement effondrés. Pour l'heure, 1450 corps sans vie ont été retrouvés. RFI, les 6h09 à Bruxelles, la Belgique, où l'ambassade des États-Unis a pris un petit peu d'avance. Elle a célébré dès hier les 250 ans de l'indépendance américaine, dont la date officielle est le 4 juillet. Une immense fête privée était organisée, 8000 personnes présentes dans le parc du cinquantenaire, à deux pas des institutions européennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Américains n'ont pas lésiné sur les moyens. 5 millions de dollars déboursés grâce à des donateurs privés. Jean-Jacques Herry y était, reportage.
Sur scène, le grand organisateur Bill White et son crâne chauve, ambassadeur des États-Unis en Belgique, s'en donnent à cœur joie. Pourquoi une fête aussi grosse ?
Parce que nous sommes les États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous présenter le président des États-Unis d'Amérique, l'honorable Donald John Trump.
Et le visage du 47e président des États-Unis apparaît projeté sur les arcades du cinquantenaire pour un message enregistré.
Depuis des générations, les Belges et les Américains ont partagé les valeurs de liberté, de démocratie et de souveraineté.
Dans un show sans fin d'auto-glorification, chaque intervenant est accueilli en musique.
Le premier ministre du Royaume de Belgique, l'honorable Bart De Wever.
Sur scène, on se remercie, on s'échange des amabilités.
Quelle agréable manière de terminer une folle semaine de chaleur dans ce pays.
Sur vol d'avion, concert du groupe country Zac Brown Band, rien n'est laissé au hasard pour impressionner la foule. Un show réussi qui s'est terminé par un spectacle de drones et de feux d'artifice. Mais reste cette impression tenace et un peu désagréable d'une Amérique voulant absolument mettre plein la vue à la vieille Europe. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et vous l'entendiez, il faisait chaud en Belgique pendant cette fête, car le pays, comme une grande partie de l'Europe d'ailleurs, connaît un épisode de canicule qui se poursuit à l'est du continent, tandis que l'ouest, lui, commence à reprendre un petit peu son souffle. Ainsi, en France, il n'y a plus de département en vigilance rouge. Selon l'Agence Santé publique France, il y a eu au moins, depuis mercredi, 1000 décès supplémentaires par rapport au mois précédent, mais ça pourrait s'alourdir encore dans les jours à venir. L'Organisation mondiale de la santé, elle, affirme que cette canicule a déjà fait plus de 1300 morts dans toute l'Europe. Nous sommes le lundi 29 juin, il y a un an tout juste. Le journaliste sportif français Christophe Glaise était condamné à 7 ans de prison en Algérie, une peine qui sera ensuite confirmée en appel. Une condamnation pour apologie du terrorisme après un reportage sur un club de football kabyle. Tous ses recours ont été épuisés, seule une grâce présidentielle lui permettrait d'être libéré. Et c'est ce que réclame à nouveau ce matin l'organisation Reporters sans frontières. Christophe Glaise, lui, qui est incarcéré, ne peut donc pas couvrir le mondial masculin de football comme c'était pourtant prévu. La FIFA lui a quand même délivré une accréditation symbolique. Et cette Coupe du Monde, elle est entrée dans sa phase à élimination directe. Le premier 16e de finale a eu lieu et Canada, Afrique du Sud, et l'aventure s'arrête là pour les Bafana Bafana. Les Sud-Africains se sont inclinés 1-0 à Los Angeles. Leurs supporters forcément sont déçus. Ceux du Canada exultent. Reportage de l'Ekpiala.
Vêtu du vert de l'Afrique du Sud, Moulalo attend le début du match serein.
Je ne peux pas perdre, je vis au Canada, je suis né en Afrique du Sud, je supporte les deux équipes.
Le rouge du Canada domine en tribune. Tyler et Stéphanie ont fait le trajet depuis Vancouver.
On espérait que le Canada finisse premier de son groupe pour les voir jouer dans notre stade de Vancouver. Mais bon, on est là.
C'est le seul pays organisateur qui doit jouer à l'extérieur. Le match aurait dû se jouer à Vancouver ou Toronto.
0-0 à la pause, Grégory, un Américain supporter des Sud-Africains, y croit.
L'Afrique du Sud va s'en sortir. Je ne sais pas quand. Les Canadiens jouent bien. Il y aura peut-être des prolongations ou des tirs au but.
Le Canada s'est procuré les meilleures occasions. Alors Amir, Américain venu soutenir le voisin du Nord, se sent un peu mieux.
Je dirais que j'ai confiance à 75% en ce qui concerne une victoire du Canada.
Il a fallu attendre la 92e minute et une frappe du milieu Steven Eustachio pour soulager Anne et tout le Canada.
C'était éprouvant.
Autre ambiance côté Bafana Bafana, évidemment.
C'est déchirant.
Prince s'interroge sur la stratégie adoptée.
J'ai pas les mots, c'est très triste. À la dernière minute, on a défendu tout le match. Peut-être qu'on n'aurait pas dû.
Le Canada n'a jamais été aussi loin dans une Coupe du Monde et Oscar ne les voit pas s'arrêter là.
Que ce soit le Maroc ou les Pays-Bas, on va les battre aussi, mec. On gagnera pareil avec un but à la dernière minute.
Le match, ce sera samedi à Houston. Loïc Pialat, Inglewood, RFI.
Et vous retrouvez un compte-rendu complet de ce match Canada-Afrique du Sud sur RFI.fr. Prochain 16e de finale à 17h en temps universel, le Brésil affronte le Japon. Quelques heures plus tard, Allemagne-Paraguay et Pays-Bas-Maroc. On fera un bilan aussi de la phase de groupe dans notre dossier du journal de 9h, heure de Paris sur RFI.
Gaëtan Plenet.
Merci d'être avec nous. Le retour de l'actualité africaine dans un tout petit peu plus d'un quart d'heure. D'ici là, on est au Royaume-Uni après la publication d'un rapport qui dénonce la situation des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés dans les maternités du pays. Entre négligence, incompétence, racisme et mépris, le constat est assez accablant. Et puis si vous êtes accro aux gâteaux et aux bonbons en tout genre, vous risquez de ne pas aimer le conseil santé du jour, mais écoutez-le quand même parce que c'est important de le rappeler, le sucre, il ne faut pas en abuser. Mais d'abord, c'était jeudi, en Pologne, la 5e conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui a reçu un versement de 3,2 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. C'est une première petite partie d'un prêt total censé atteindre les 90 milliards. Mais les participants à cette conférence en ont profité.
I don't know how much air I got. I will never get used to this, 'cause it ain't what it seems. And don't nobody check on me. It's a slow way to go all alone. My cool or lose my way. Try to talk to the wind, but just can't pretend. I'm a man, man without a friend. How you get lonely even though you're surrounded by the ones you know, killing myself.
what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal.
Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Squeeze.
Manioc.
Yeah. Ça c'est le comité d'accueil. Tu peux pas imiter, t'es limité par ton seuil de débilité. On vient militer sur feuille. C'est le comité du karaté rap. Veille à ne pas déraper, c'est une expédition pour le respect. Donc restez connectés. Fait que j'ai au micro 7 géants. En mission 7 généraux. Généreux dans le taf même. Quand c'est pour délirer, yo, admirez le style. Les phases venimeuses. Mettre en freestyle, distille. Phase vénéneuse. Mettre pour sonner le glas. Envenimé là. Si tu passes son du rap, t'as deviné, gars, c'est la police.
C'est une mission commando. Donc j'ai les commandes en tabac cash. Y'a clash, on te fait le boule, le tabac ta cache. Lâche, ma tic est là, sortez les Kleenex. On lance que des silex, mec, silence, c'est là. Fais la sur, c'est là, tu chaud le sillon. Pour nous, c'est l'heure, c'est les deux sorts. Avec le canon scié, vocal, c'est pratical. Mais le flot te va être à ton taille de spi avant que nos rimes vous calent. Ça fait quand le style vous goum goum. Football sonore si tu chantes à peigne à koum koum. Coucou, c'est nous, vous pouvez trembler. On vient vous tirer les oreilles jusqu'à vous étrangler.
MC attention, mon équipe arrive dans les bacs. Car dans la chanson, je fuck tous les gens qui craquent. Sans moi le mic, putain d'époque, faut des sons qui claquent. Quoi qu'on dise, même si ça tourne pas dans les boîtes, ça squatte à l'ego va. De ceux qui aiment quand ça déboîte, là l'acrobate, venu pour un travail au black. Nettoyer le rap, du move et tous ces bons clats. A tous les auditeurs, loin du cap, je redonne le nom du squat. Et voilà Madeleine ma couille, ici y'a des gens qui tapent, veulent prendre du poids avec des sons qui claquent. Car comme tu le vois, c'est dans l'ombre que les bons éclatent. Rap de petite frappe, mec, c'est freestyle, flow fat qui frappe. Le liquide qui se pratique. La rafale de l'équipe 5 magnifique. On a des lyrics qui kidnappent. Une allée maléfique qui te marque. Sur le bois malade, si t'as sur mic. On t'emmène juste pour une petite balade. Et on te relâche avec une big balade. Après le battle, y'a pas l'ombre d'une fiotte. Quand y'a pas la bondi blanc qui hold 6-3-6-1. C'est mes palaces. C'est le 10 de babe qui parle. Mec, reste pas là. T'es pas là dans le jeu. Y'a pas de parade. Pour vis qu'il crache. C'est où il crèche. C'est la scène. Le lyrical calage. Carage et barbade.
C'est l'expédition. C'est la guérilla, balance, les ogives. On a lancé l'expédition punitive. Moi j'ai comme sur moi et mes potes, on arrive. C'est la seule alternative. C'est la guérilla, balance, les ogives.
S'il faut les punir, je suis là. J'ai tout le matos, les couilles, les cartouches. Tu me cherches et je suis là. Il suffira d'un round. J'ai de la cible en bouteille, en férime facile, place. La prod, vu que leur appât, le sida, c'est l'air sur l'album d'Alcidage. Qui veut tester l'équipe, expédition punitive. Mini-style, fumigène, j'kick et les démons, ils kiffent. Paraît qu'ils pompent tous, alors qu'ils se trompent, cousent. Qu'ils marchent sur une bombe, douce mesure sur un son ouf. En cagoulé, j'ai des claques. Qui veut m'éloigner des bacs. Jeff, le nerf, braque, levez les bras. On tente d'éclater les cartes, mais le son, tu télécharges. Donc sans baiser les cailles, on tente de recharger les bacs.
J'arrive avec mes lèvres GRC, les rangers pleins de goût. Le staff Alcida cherche puni, en plus, c'est que le début. Des wagons dans la bouche, le goût amer du dégoût. Désolé d'un coup si les textes t'en baissent les égouts. Dans cette expédition, j'ai beaucoup trop de munitions. Résultat, on me suit à la trace comme le petit poussé. J'ai la solution, distribuer des punitions. Mes langues sont dressées, mes manches sont déjà retroussées. Bienvenue dans mon tombe. Drapeau mis en berne pour les firebombs. Entraîné comme des marines, mec. Marie me rend dans ton anus, si on sort par tes narines.
C'est l'expédition punitive. C'est comme les sombres et mes potes, on arrive. C'est la seule alternative. C'est la guérilla, balance, les ogives. On a lancé l'expédition punitive. C'est comme les sombres et mes potes, on arrive. C'est la seule alternative. C'est la guérilla, balance, les ogives.
Yeah.